Ah oui, tout à fait, parce qu'une arrestation d'un premier ministre en exercice par une vingtaine de militaires envoyés par le capitaine Sanogo, c'est effectivement un coup d'État. En fait, le moment où le capitaine Sanogo et l'armée malienne a pris le pouvoir, en tout cas une partie de l'armée, hein, contre ATT, c'était sans doute aussi un symptôme du fait que le pouvoir d'Amani Touré était corrompu et au fond en partie illégitime. Mais par la suite, à la suite de ce coup d'État, la communauté internationale a fait d'énormes pressions pour, au fond, que le capitaine Sanogo se démette, mais au profit d'un président, Nyoncona Traoré, et d'un premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, qui eux-mêmes étaient imposés par l'extérieur, et donc qui manquaient de légitimité.
Mais en quoi, dans ce cas-là, le capitaine Sanogo est-il, lui, plus légitime?
Ah, il n'est certainement pas au point de vue d'élection légale. Mais ce qu'on ne dit pas en général à l'extérieur, c'est qu'à cause de la corruption du régime précédent, il a un soutien populaire d'une partie de Bamako en particulier, qui s'exprime à travers une organisation, la COPAM, des intellectuels comme Aminata Traoré ou des hommes politiques comme Omar Mariko, l'ancien leader syndicaliste étudiant.
Et vous pensez que c'est ce soutien, on va dire, civil qui, pour lui, le pousse comme ça à agir? Pourquoi avoir agi aujourd'hui même?
Il y avait de plus en plus de tensions entre le président Nyoncona Traoré d'une part, Cheikh Modibo Diarra le premier ministre, et effectivement les militaires du capitaine Sanogo qui sont à une vingtaine de kilomètres, une trentaine au camp de Kati. Et les militaires ont été renforcés par des livraisons d'armes. Et Cheikh Modibo Diarra nommait ces gens dans l'appareil d'État et se préparait pour une éventuelle élection présidentielle, donc en quelque sorte s'autonomiser tant par rapport à l'extérieur que au pouvoir des Poutchis.
Quel est l'intérêt pour tous les acteurs, aussi bien extérieurs qu'intérieurs, à ce qu'il y ait encore de l'instabilité au Mali?
Ça, c'est une question délicate parce que ça revient à demander qui est derrière le capitaine Sanogo et son putsch. Pour le moment, c'est très difficile à dire, hein. On voit bien qu'il y a des pays, comme par exemple la Côte d'Ivoire, qui sont favorables à une intervention armée sans pour autant envoyer un seul homme, ou bien encore le Nigeria, qui a participé à toutes les aventures militaires de l'Écomog, au Libéria ou en Sierra Leone. D'autres qui sont complètement hostiles, en tout cas qui ne veulent pas y participer, comme la Mauritanie, par exemple, hein, et que dans les puissances extérieures, si la France est très favorable à intervenir elle-même, ou en tout cas à soutenir une intervention, tout en un peu se cachant derrière la CEDEAO, les Nations Unies sont très réticentes quant à elles à une intervention militaire. Donc c'est très délicat de dire s'il y a quelqu'un derrière le capitaine Sanogo ou s'il agit de son propre chef.
Mais il y a un intérêt quelconque à voir le Mali rester dans cette situation, à voir tout le nord du pays contrôlé par les islamistes?
Et on peut voir un intérêt indirect pour l'Algérie, puisque tout le monde sait qu'ACMI, au fond, la suite de groupes salafistes pour la prédication et le combat, qui sont formés surtout, ACMI est formé de militants, d'islamistes algériens, d'origine algérienne. Et donc, c'est l'Algérie qui, par exemple, en ce moment, organise le commerce avec le nord du Mali. Et donc, son intérêt est ce qui est une sorte d'abcès de fixation pour les islamistes à l'extérieur, c'est-à-dire au nord Mali, plutôt qu'à l'intérieur, où ils pourraient refluer en cas d'intervention militaire. Autrement, il n'y a pas d'intérêt des puissances étrangères à ce que le Mali soit coupé en deux. Simplement, il y a l'instrumentalisation des rébellions à tous les niveaux et de manière croissante, depuis la rébellion ivoirienne jusqu'à maintenant la rébellion congolaise du M23 et puis les mouvements islamistes ou le MNLA Touareg au Nord Mali.